Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, une affaire criminelle qui se déroule dans la Marne en 2010. L'enquête sur l'assassinat de Laurence Dromard le 15 juillet 2010. C'est une histoire intéressante jusqu'à la fin, puisqu'au procès, il y en aura deux, tout va se jouer sur l'intime conviction des jurés. Pas de preuves formelles. L'occasion de rappeler d'ailleurs qu'à la cour d'assises, il n'y a pas besoin de preuves. Je vous lis l'article 353 du Code de procédure pénale qui est relu par le président ou la présidente à chaque fois qu'un jury se retire pour délibérer. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils sont convaincus. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Pour le débrief tout à l'heure, une journaliste qui a fait toute sa carrière à Radio France, à France Bleu Champagne, grande spécialiste des affaires criminelles et qui la poursuit aujourd'hui sur son blog. Bonjour Monique Derrien.
Bonjour.
Votre blog s'appelle moniquederrien.com. Voici cette
très
histoire.
Facile.
Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire débute en juillet 2010 à Saint-Martin-d'Ablois, dans la Marne. Le 15 juillet, à 22h11, les pompiers reçoivent un appel paniqué. Sapeur-pompier, j'écoute.
Allô ? Je suis Sylvain Dromard, à Saint-Martin-d'Ablois. Venez vite, j'ai trouvé ma femme dans l'entrée chez moi. On lui a fracassé le crâne.
Elle respire ?
Je sais pas, je crois que oui.
Les pompiers arrivent, la scène est terrible. Le mari tient sa femme dans les bras et il y a du sang partout dans la pièce. Un carnage, une grande flaque sur le sol, des éclaboussures sur les murs, sur les meubles et la tête de Laurence Romard, elle s'appelle Laurence, explosée, fracassée. Les pompiers se lancent alors dans un massage cardiaque et là, miracle, son cœur repart. Ils la stabilisent, ils la mettent dans une ambulance. Mais malheureusement, Laurence Dromard meurt sur la route de l'hôpital. Quand les gendarmes arrivent, ils trouvent le mari, Sylvain, qui est artisan menuisier et qui a découvert le corps en rentrant du boulot, effondré.
On était mariés depuis 19 ans. Il va falloir que je dise ça à nos deux filles. Leur maman est morte.
Elles ont quel âge, vos filles ?
Chloé a 14 ans. Et Clarisse a 18.
Vous avez une idée de qui a pu faire ça ?
Je pense que c'est un cambriolage. Regardez, ils ont tout retourné, regardez, tout est par terre.
Et c'est vrai, des armoires entières ont été vidées. Tous les dossiers de l'entreprise de Sylvain, qui est artisan menuisier, sont éparpillés sur le sol. La maison a été retournée. Est-ce qu'ils vous ont volé quelque chose ? Vous avez remarqué qu'il manque quelque chose ?
Oui. J'avais mis du liquide caché dans une cassette vidéo, dans une enveloppe. L'argent a disparu. C'était pour payer nos vacances. On devait partir demain.
Et c'est tout ?
Non, j'ai vu aussi qu'il manque ses bijoux.
Dès le lendemain matin, la terrible nouvelle fait le tour de Saint-Martin-d'Ablois. 1500 habitants, c'est tout petit. Et tout le monde connaissait Laurence, elle a un salon de coiffure, Laurence Coiffure, juste à côté de chez elle. Un cambriolage qui a mal tourné, c'est possible. Même s'il n'est pas courant que des cambrioleurs surpris fracassent la tête de celle qui vient de les prendre en flagrant délit. Ou alors elle les connaissait, et elle les aurait dénoncés. Ils n'ont pas eu le choix. À part ça, ces cambrioleurs sont très imprudents, parce que c'est une impasse. La maison des Dromard est au fond d'une impasse, une longue impasse bordée de maisons de chaque côté. Les voisins les ont peut-être vus arriver. Bonjour monsieur, gendarmerie. Vous venez pour Laurence ?
Oui. Vous avez vu quelque chose ? Vu quelqu'un entrer chez les Dromas ?
Non. Non, j'ai rien vu, je suis désolé.
Personne n'a rien vu, personne. Les gendarmes fouillent toute la maison et ils trouvent des bijoux qui pourtant étaient en évidence et qui n'ont pas été volés. Et puis une enveloppe avec du liquide, 500 euros. Et à partir de là, une idée commence à leur trotter dans la tête. Et si ça n'était pas un cambriolage qui tourne mal ? Parce que tout de même, ils ont les premiers retours du légiste. On s'est acharné sur cette femme. Elle a reçu au moins 10 coups violents sur la tête. 10. D'après les projections de sang, les premiers donnés debout et ensuite au sol. Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! C'est beaucoup, 10 coups. Vous voyez un cambrioleur surpris en plein travail qui balance 10 coups violents comme ça à une femme qui ne connaît pas ? Non, ça ressemble à un meurtre déguisé en cambriolage. Et évidemment, à qui pensent les gendarmes ?
Vous y pensez aussi, j'en suis sûr.
Le mari ? Le mari éploré qui suggère que c'est un cambriolage. Les voisins disent qu'ils l'ont vu arriver chez lui à 21h50. Ça colle avec son propre témoignage. Ok. Alors pourquoi n'appelle-t-il les pompiers qu'à 22h11? Que fait-il dans les 21 minutes qui séparent la découverte de sa femme en sang du moment où il appelle le 18? D'autant que Laurence, à ce moment-là, est entre la vie et la mort. Il y a urgence. Puisque dans les minutes qui suivent leur arrivée, les pompiers, par un massage cardiaque, parviennent à relancer son cœur. Il n'y a pas que ça qui laisse penser que peut-être Sylvain Dromard n'est pas blanc-blanc dans cette affaire. Le jour des obsèques de sa femme, Laurence. Après, il y a toujours un petit pot. Il y a des brioches, il y a du café, il y a des jus de fruits, ça se fait. Eh bien lui,
oh, vous savez ce qu'il a fait ? Eh bien, il a réclamé du champagne. C'est fou, hein ? Du champagne le jour de l'enterrement de sa femme, comme si il y avait quelque chose à fêter. Oh ben maintenant, le voilà avec sa poule.
Hein ? Eh oui, ça c'est l'autre révélation de ce début d'enquête. Sylvain Dromard a une maîtresse, et d'après ce que disent les gens, la pauvre Laurence avait les cornes depuis le premier jour de son mariage. Sylvain l'a toujours trompée.
Oh bah depuis 3 ans. Disons qu'il avait une régulière. Une attitrée, quoi. Muriel, qu'elle s'appelle.
Muriel Bonin, secrétaire dans une boîte de matériaux de construction dont Sylvain Dromard est client. Mais attention, hein, n'imaginez pas une maîtresse qu'il va voir en cachette en racontant des bobards à sa femme. Depuis qu'il la connaît, Sylvain a quitté 2 fois le domicile conjugal pour aller vivre avec elle. Et puis il est revenu, pour les filles, pour leurs filles. Ça nous fait un mobile ? Non. Il a une maîtresse, il n'arrive pas à quitter sa femme. Il la tue. Un mois après la mort de Laurence, Sylvain Dromard est donc convoqué par les gendarmes à la section de recherche de Reims. Et là, il y a 2 techniques. Soit ils lui font croire que c'est un interrogatoire de routine, et il voit venir. Soit ils lui disent d'entrer les choses. On vous soupçonne. Il y a ça et ça dans vos déclarations qui ne collent pas. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi vous attendez 20 minutes pour appeler les pompiers. Les gendarmes choisissent cette dernière approche. Ils posent leurs doutes sur la table. D'entrer ! En se disant c'est un amateur, ça va le déstabiliser. Eh bien pas du tout.
J'aurais jamais tué Laurence. Enfin, c'est la mère de mes filles. Vous vous rendez compte ? Ça ne peut pas être moi.
Vous avez une deuxième vie, monsieur Dromard. Avec madame Muriel Bonin.
Laurence le savait. Elle acceptait. Je lui ai dit avant même qu'on se marie que j'étais volage. C'était comme ça, elle me pardonnait.
Vous nous dites tout allait bien avec ma femme ?
Oui. On avait plein de projets ensemble. Déjà, on devait partir en vacances, le lendemain de sa mort, en camping-car avec nos filles. Et puis, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a acheté des appartements ensemble pour notre retraite.
Montant de votre investissement ?
450 000 euros. 450 000. Et puis on était sur le point d'acheter une voiture neuve aussi.
Et là, les gendarmes lui demandent de s'expliquer sur ce laps de temps de 20 minutes entre son arrivée chez lui et le moment où il appelle les pompiers.
Oh ben ça, c'est pas compliqué. J'ai tenté de la sauver, enfin. Je lui ai fait un massage cardiaque, et puis du bouche à bouche. Et puis ensuite, j'ai voulu appeler, le téléphone de la maison était cassé. Il a fallu que j'aille chercher mon portable dans la voiture. Ça m'a fait perdre du temps. Cherchez pas plus loin.
Ouais. Pourquoi pas? D'autant qu'il y a un élément qui joue en sa faveur. D'après le légiste, l'arme du crime est un objet contondant. Genre matraque, poutrelle, batte de baseball, marteau. Un truc qui blesse, qui peut tuer, mais qui ne tranche pas. Un objet contondant, pas tranchant. Or cette arme, les gendarmes ont fouillé toute la maison. Ils ne l'ont pas retrouvée. Or si on imagine que dans le fameux laps de temps de 20 minutes, Sylvain tue sa femme, il n'a pas en plus le temps de se débarrasser de l'arme et d'aller la planquer. Bien en plus, puisqu'on ne la retrouve pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment tuer quelqu'un en 20 minutes? Il est 10h moins 10. Sylvain Dromard rentre chez lui. Il est tard, il est fatigué, il a travaillé toute la journée. Il descend de sa voiture. Il pénètre dans la maison, il va vers sa femme, et là, bam, 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 il lui fracasse le crâne 10 fois. Ça ne se fait pas en 20 minutes, ça. Ça paraît dingue. Ou alors, ça n'est pas à ce moment-là qu'il la tue. Ou alors, il n'était pas seul. Il avait un complice, ou une complice. Et là encore, pas de chichi entre nous. Un complice, à qui pense-t-on en premier? Sa maîtresse, Muriel Bonin. Elle a un intérêt dans l'affaire. Passer de l'amour à temps partiel à l'exclusivité. Avoir son Sylvain pour elle toute seule. Les gendarmes se font remonter sa fadette, la facture détaillée de son portable. Tiens, tiens, tiens. Muriel coupe son portable à 19h pour ne le rallumer que le lendemain matin. Or, quand on regarde ses factures depuis plusieurs mois, ça ne lui arrive jamais. Jamais elle ne coupe son portable une nuit entière. Et là, par hasard, elle l'éteint la nuit du meurtre. Louche. Très louche. À part ça, les gendarmes apprennent que les deux femmes, Laurence Dromard et Muriel Bonin, se détestaient. Mieux que ça. 3 mois avant le meurtre, elles se sont empaillées, figurez-vous. Laurence est allée chez sa rivale pour lui demander d'arrêter de fréquenter son mari. C'est ce que racontent leurs amis. Et Laurence aurait traité Muriel de pute. Et en retour, Muriel lui aurait collé une baffe. Et ça s'est terminé, façon Astérix. Pim, pam, poum. Et elles se sont battues comme des chiffonnières. Muriel a pris un nion au point que son médecin lui a collé plusieurs jours d'arrêt maladie. Est-ce que Muriel n'a pas tout simplement voulu se venger? Le mardi 16 novembre 2010, 4 mois presque jour pour jour après le meurtre, Sylvain Dromard et sa maîtresse Muriel Bonin sont placés tous les deux en garde à vue, chacun dans leur coin. Madame Bonin, est-ce que vous pouvez nous détailler votre emploi du temps l'après-midi et la soirée du 15 juillet?
J'étais chez moi. J'ai pas bougé.
Ok, miss. Mais c'est long, une garde à vue. À l'approche de la 48e heure de garde à vue, Muriel Bonin, la maîtresse, craque.
Je sais qui est l'auteur du crime. C'est Sylvain.
Et elle donne tous les détails.
Sylvain, il avait une batte de baseball. Il l'a attaqué par derrière. Elle est tombée. Il m'a dit qu'elle l'avait regardé, qu'il n'a pas supporté son regard, et il l'a frappé. Et il est frappé encore, par terre, au sol.
Elle dit qu'il a ensuite maquillé son crime en cambriolage, renversé les meubles, les dossiers, cassé le téléphone, et qu'après il s'est changé, et qu'il a emporté ses vêtements souillés de sang et la batte de baseball, et qu'il est allé s'en débarrasser. Où s'en est-il débarrassé?
à son atelier. C'est pas loin, c'est à 1 kilomètre de chez lui. Il a tout mis sous la laine de verre du faux plafond.
Et elle raconte la suite en détail. À 10h10, il rentre chez lui comme si de rien n'était. Et là, il la voit bouger. Sa femme n'est pas morte.
Il m'a dit qu'il l'a vue ramper sur le sol.
Et on a maintenant le récit de ce qui s'est passé pendant les fameuses 20 minutes qui séparent son arrivée chez lui de son appel aux pompiers. Il l'a étouffée avec un torchon. Il a fini le travail. Et après, il a appelé les secours. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Elle donne beaucoup de détails, la maîtresse, beaucoup. Elle décrit parfaitement la scène. Est-ce que ça veut dire qu'elle était là? Madame Bonin, vous nous racontez tout ça 5 mois après le meurtre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé plus tôt? Pourquoi ce silence, madame?
Mais j'ai appris tout ça très récemment. Il m'a raconté tout ça il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, il mouillerait dans l'affaire. Il m'accuserait d'être sa complice. C'est pour ça que j'ai rien dit.
Quelques minutes plus tard, les gendarmes vont coller les révélations de sa maîtresse sous le nez de Sylvain Dromard.
Raconte n'importe quoi! N'importe quoi! Enfin, j'ai pas tué ma femme! Elle délire!
Parole contre parole. Il y a un moyen de vérifier si Muriel Bonin ment. Il n'y a qu'à aller à l'atelier de menuiserie et sonder le faux plafond. Et si on trouve ses vêtements tachés de sang et la batte de baseball, Sylvain Dromard est cuit. Les gendarmes y vont.
Regarde là, là. Là, il y a un trou dans le faux plafond.
Un trou, oui. Mais dedans, il n'y a rien. Ni vêtements, ni batte de baseball. Donc, elle a menti. Elle a raconté n'importe quoi. Pas sûr, car elle a quelque chose à ajouter.
Il l'a pas laissé dans le faux plafond. Il est allé la brûler dans les vignes. Dans ses vignes. Et ses vêtements aussi.
Ah ah! Ça, c'est intéressant parce que il y a dans la procédure le témoignage d'un riverain qui dit qu'il a vu Sylvain Dromard près de ses vignes. Eh bien, on y va. Allons fouiller la vigne. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la vigne en question? Les restes d'un feu. Et dans les cendres, les restes de semelles de chaussures de sport. Elle n'a donc pas menti, la bougresse. Sylvain Dromard a donc tué sa femme. Même si honnêtement, les gendarmes trouvent que Muriel Bonin donne beaucoup de détails. Beaucoup trop. Elle donne l'impression d'avoir assisté au crime. En attendant, retour face à Sylvain Dromard.
Monsieur Dromard, suite aux déclarations de Madame Bonin, nous nous sommes rendus dans l'une de vos vignes et nous avons trouvé des cendres. Et dans ces cendres, des vêtements brûlés et les restes d'une paire de baskets. Est-ce qu'il s'agit de vos vêtements, monsieur Dromard?
Pas du tout. Il est allé dans ses vignes, oui, mais pour les entretenir.
Il dit que 2 pieds de vigne étaient malades, qu'il les a coupés et qu'il les a mis à brûler dans un feu qui était là, dans un coin, et qui finissait de se consumer.
Eh ben oui, enfin.
Il est courant de trouver des feux allumés au milieu des vignes.
Les gendarmes ne croient pas un mot de son histoire. Et à la fin de sa garde à vue, Sylvain Dromard est déféré devant la juge d'instruction et il est mis en examen pour l'assassinat de son épouse et placé en détention provisoire. Mais ça ne règle pas le cas de la maîtresse, Muriel Bonin. Est-ce qu'elle est impliquée? Est-ce qu'elle est complice?
Les gendarmes étudient en détail le relevé de son portable et ils tombent sur un SMS, un drôle de SMS.
Tu me diras ce que tu veux faire avec elle. Tu m'as dit avant le 17, on se soutient mutuellement, tu auras besoin de moi et moi de toi.
Qu'est-ce que vous comprenez à ce SMS, vous ?
Eh bien d'abord qu'il y a une date butoir pour éliminer Laurence, le 17 juillet. Et ça colle avec la date du meurtre, le 15 juillet. Et surtout, ce message signifie que la maîtresse était au parfum avant. Au minimum, elle savait que son amant allait tuer sa femme. Je dis au minimum parce qu'au maximum, elle y a participé. Et même est-ce que ça n'est pas elle, l'assassin ? En fouillant le sac à main de Muriel Bonin, les gendarmes tombent sur un chéquier. Un chéquier qui a été utilisé chez Decathlon. Le montant du chèque colle avec le prix d'une batte de baseball. Où est-elle, cette batte de baseball, Madame Bonin ?
Elle est chez moi. Mais vous la trouverez chez moi.
Et là, elle marque un point parce que, effectivement, on trouve chez elle une batte de baseball nickel. Pas une tache de sang, rien qui puisse laisser penser que c'est l'arme du crime. Sauf qu'on s'aperçoit que quelques jours après le crime, Muriel Bonin est allée chez sa sœur à Besançon et qu'elle est allée chez Decathlon à Besançon pour acheter en liquide une deuxième batte de baseball, la même que la première. Muriel Bonin est mise en examen pour complicité d'assassinat. Et elle aussi, elle file derrière les barreaux. Et voilà le scénario qui se dessine. Sylvain Dromard est raide dingue de sa maîtresse. Et elle, après 3 ans dans l'ombre, elle en veut davantage. Elle ne veut plus partager son amant avec sa femme. Elle le somme de se débarrasser de son épouse. Elle est l'instigatrice de l'assassinat. Et lui en est le bras armé. Le temps passe. Après 1 an d'emprisonnement, les 2 mis en examen sont remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Et c'est donc libre que le 27 juin 2016, 6 ans après l'assassinat de Laurence Dromard, ils comparaissent devant la cour d'assises de Reims. Et donc on ne les met pas dans le box des accusés, mais sur un banc côte à côte. La scène résume parfaitement la situation. Ils sont chacun à un bout du banc. Ils ne se parlent pas. Ils ne se regardent même pas. Et tous les deux sont sur la même ligne. Sylvain Dromard dit « C'est pas moi, c'est elle ». Et Muriel Bonin dit « C'est pas moi, c'est lui ». Au jury maintenant de trancher selon leur intime conviction. Et entre autres choses pour trancher, les jurés vont s'appuyer sur l'impression que l'un et l'autre leur font pendant le procès. Sylvain Dromard, on a l'impression que ça ne le concerne pas. Il est là, impassible. Quand le président décide de montrer les photos de la scène de crime, le sang partout sur les murs, sur les meubles, aucune émotion. Pas un battement de cils, rien. C'est sa femme tout de même. C'est le sang de sa femme. Alors que elle, Muriel Bonin, elle, c'est tout l'inverse. Elle répond à toutes les questions. Elle pleurniche quand il faut pleurnicher. Une partition parfaite. Trop, peut-être. Et ça finit par se retourner contre elle. Un expert vient à la barre. Sur la scène de crime, on a trouvé une trace de pas ensanglantée. Une trace de Converse taille 39. Il ne s'agit ni de la pointure de Sylvain Dromard, ni de celle de Laurence Dromard, la victime, ni de celle des pompiers qui sont intervenus. En revanche, Muriel Bonin, chose du 39. On ne peut pas jurer que c'est son empreinte, hein. Mais ça met le doute. Le verdict tombe. Sylvain Dromard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de sa femme. Et Muriel Bonin à 18 ans. Pour complicité d'assassinat. Et tous les deux sont arrêtés sur le champ et expédiés en prison pour purger leur peine. Tous les deux font appel. Et le procès se rejoue donc devant la cour d'assises de Troyes en septembre 2017. Et là, changement de décor, hein, ils ne sont plus libres, ils sont prisonniers et ils sont donc tous les deux dans le box. Un procès d'appel marqué par une déclaration spontanée de Sylvain Dromard.
Je vais vous dire ce qui s'est passé. Réellement, le 15 juillet, en rentrant chez moi, j'ai vu 2 personnes. C'était Muriel Bonin et son frère. Elle m'a dit « Je viens de massacrer ta femme. » Elle m'a dit « Si tu parles, je tue tes filles. » « Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit avant, monsieur ?»« J'avais peur pour mes filles. » Elle m'a dit qu'il y avait un contrat sur elle. Et puis elle a aussi mis un contrat sur ma tête, depuis qu'on s'est séparés en avril. « Pourquoi est-ce que vous faites ces révélations aujourd'hui, monsieur ?»«
Je suis obligé. Je peux plus garder ça pour moi. J'ai entendu trop de mensonges depuis le début du procès. »
On a beaucoup de mal à le croire, parce que l'instruction a démontré que Sylvain Dromard et Muriel Bonin se sont revus après le crime, et qu'ils ont même couché ensemble. Est-ce qu'on couche avec la femme qui vient de tuer son épouse, qui menace ses enfants et qui vous menace, vous ? Non. Enfin, normalement, non. Par cette ultime version, Sylvain Dromard pensait sans doute se disculper. Eh bien, c'est tout l'inverse. Et ça explique le verdict. Sylvain Dromard est condamné à 30 ans de réclusion criminelle et Muriel Bonin, sa maîtresse, est acquittée. Six mois plus tard, Sylvain Dromard, en prison à Châlons-en-Champagne, avale une boîte entière d'anxiolytiques dans sa cellule. Il est retrouvé mort par les surveillants. Il s'est suicidé.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.